Je crois que l'Église de Jésus-Christ est uniquement composée de ceux qui ont été rachetés et lavés dans son sang sur la croix, de ceux qui se sont convertis dans le Saint-Esprit, qui ont été régénérés et scellés par le Saint-Esprit. C'est beaucoup dans une seule phrase, hein? C'est beaucoup. Je crois que l'Église de Jésus-Christ est uniquement composée de ceux qui ont été rachetés et lavés dans son sang sur la croix. Romains chapitre 6. C'est un des passages que j'ai compris aux environs de 55 ans. En le lisant, je suis toujours passé dessus en croyant comprendre, en comprenant les choses. Pourquoi ? Parce que les choses que j'avais apprises de l'Église catholique et dans mes études de prêtre, c'était des lunettes avec des carreaux noirs, et je ne voyais pas ce qui était marqué dans le texte. Il m'a fallu, c'est durant la troisième année, pendant la nuit, quand j'étudiais, qu'à un moment donné, j'ai lu des textes, puis je me suis dit, mais enfin je comprends. Comme si quelque chose était venu tout simple, tout clair. Et Seigneur, mais il y a si longtemps que je te le demande, et tu viens seulement de me le donner. Seulement de me le donner, ça veut dire quoi? Ce n'était pas un reproche, c'est simplement que Dieu ne donne que quand on a réellement montré qu'on est digne de le recevoir. Et c'est valable pour nous. Dieu ne donne pas les perles aux cochons, il faut faire attention. Il est à chacun ici, il est donné selon Dieu, dans la mesure de son intégrité, de sa recherche de Dieu. Quand sa recherche, la recherche de chacun de nous, est limitée par des intérêts, par des peurs, par un manque de courage, un manque de dons à Dieu, les dons de la foi sont très petits, très très petits. Dieu ne donnera qu'à celui qui a envie de mettre en œuvre ce que Dieu lui donne. On ne donne pas un marteau-pic sur un chantier qui pèse 60 kg avec un moteur, ou 80 kg avec un moteur, pour briser les trottoirs, les bétons, le tarmac, à un gringalet qui fait 55 kg. C'est lui qui va sauter, c'est pas la machine qui va sauter. On va mettre un gaillard de 100 kg, et puis au plus, et puis il va tenir ça, il va travailler toute la journée avec. Et qui n'a rien, pas d'arthrose dans le dos ni dans les épaules. C'est la même chose. Il en aura après. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu donne selon l'intégrité de notre soif et la volonté de le mettre en œuvre. Et moi, je me suis rendu compte de ça parce que j'avais dit ça au responsable de l'institut où j'avais été, au séminaire. Un jour, on avait une discussion, le chemin de Victor. Et je lui avais dit, mon idéal est de pouvoir passer 3 heures dans la parole de Dieu et la prière tous les jours. Et c'est un minimum. Même si la journée est remplie de travail, 3 heures. 3 heures au moins dans le lit, mais 3 heures avec le Seigneur. Et il m'a dit, puisse Dieu t'entendre et te donner le don de le faire. Je me suis rendu compte que je lui avais dit, je désire connaître Dieu, pas à moitié. Est-ce que je peux dire ça à la dame qui a donné de l'argent en vendant son garage pour que tu puisses faire tes études de théologie, parce que la dame ne voulait pas que je la connaisse? Oui, vous pouvez lui dire, je suis certain de ce que je dis. Et c'est sans retour. Alors, puissiez-vous comprendre que le chemin avec le Seigneur est un chemin qui doit être sans retour. Quand le général romain est parti avec tous ses bateaux pour envahir l'Angleterre, il avait en face de lui, sur l'Angleterre, des têtes dures, hein, super dures. Et il savait que ses soldats pouvaient fléchir et s'en aller. Eh bien, il a brûlé tous les bateaux. Et il a mis ses légions en route. Et la bataille a eu lieu, ils ont gagné. S'il avait laissé les bateaux, il perdait. Avez-vous brûlé vos bateaux derrière ou pas? Alors, je crois que l'Église de Jésus-Christ est uniquement composée de ceux qui ont été rachetés et lavés dans son sang sur la croix. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous. Donc, on est dans... Il y a une cinquantaine de communautés, ou peut-être plus de communautés locales, très discrètes, comme dans beaucoup de pays maintenant, qui ne sont pas chrétiens, et qui ont été fondées par les chrétiens, les nouveaux chrétiens de la Pentecôte, hein, qui ont vu les apôtres parler, qui ont entendu Pierre prêcher aux foules, et ces gens-là ont été au bénéfice de la consécration des premiers chrétiens de Jérusalem. Ces gens-là ont vendu leur maison pour que ces gens restent quelques mois nourris et enseignés. Et quand ils sont partis, ils étaient capables de fonder des familles et des communautés chrétiennes. Et donc, ce n'est ni Pierre et Paul, comme dit la tradition de Rome, qui ont fondé les églises de Rome, ce sont les chrétiens de la Pentecôte, le Saint-Esprit. Et Paul veut les visiter pour leur donner quelques dons en plus, pour partager la foi avec eux, les édifier, vraiment structurer la foi selon la Bible. Bien que déjà, ils avaient l'essentiel par le Saint-Esprit, par la conversion. Alors, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc c'est nous tous, c'est tous les chrétiens, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je vous rappelle que dans Marc chapitre 10, Jésus avait dit à ses disciples, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, c'est-à-dire subir la colère de Dieu, alors qu'elle devrait tomber sur vous? Et pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Ça, c'est juste avant de mourir à la croix. Et le baptême de Jésus-Christ, c'est la mort à la croix, c'est l'entrée dans le tombeau, c'est la sortie du tombeau, la résurrection. Le mouvement de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, qui est répété symboliquement dans le baptême d'eau. Et quand on a le baptistère ici, et puis qu'on fait ça, c'est pour rappeler ce que normalement, la vie spirituelle d'un être qui croit en Christ a connu sur la croix au moment, avant qu'il soit né. Il a connu, parce que Dieu le connaissait, Dieu savait qu'il allait naître, pécheur d'Adam et Ève, il savait qu'un jour, il prendrait à son cœur, et que cette personne renoncerait à sa nature adamique, sa nature séparée de Dieu, sa nature rebelle, pour faire sa volonté, pour vivre dans sa sainteté, dans son sainteté. Et donc, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La nouveauté de vie est donnée par la puissance de la résurrection. Elle n'est pas subjective et liée à ma bonne volonté, parce qu'on sait ce que ça donne, la bonne volonté. Les serments, les promesses et tout le reste, c'est zéro devant Dieu, s'il n'y a pas la grâce. S'il n'y a pas la grâce. Verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc ici, c'est l'image d'une graine qui est mise dans le sol, hein, par exemple une patate, un grain de blé, puis il meurt, mais il y a des racines qui viennent, et puis des filaments, et puis il y a des autres patates qui viennent, et puis si c'est pour le grain de blé, c'est une tige, et puis un épi. Donc, nous sommes devenus une même plante par lui, par la conformité à sa mort. Il y a réellement une mort à la croix de mon être adamique pour donner une autre vie. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, donc notre nature humaine, soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort en Christ, celui qui reconnaît que Jésus a vécu ça pour lui, réellement, il s'identifie à Jésus, il sait ce que Jésus a fait comme œuvre de salut pour lui, eh bien, il est mort avec Christ, verset 8. Et nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors, verset 10, il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, il y a réellement une coupure radicale, et au verset 11, « Regardez-vous comme mort au péché. » Ça, c'est subjectif, ça, c'est moral, ça, c'est intentionnel. Il faut avoir un acte, une conscience éveillée en disant, ayez à une considération que c'est votre identité maintenant. Et que vous devez mettre en œuvre une nouvelle nationalité, une nouvelle filiation, une nouvelle nature, un nouveau devenir, et que le passé est le passé. Les bateaux sont brûlés. La graine est pourrie. La vieille patate est toute noire, elle est en train de pourrir, alors qu'il y en a 10-15 alentours dans la toquée. On ne remange pas la patate pourrie qui a été plantée 3-4 mois avant. On mange une nouvelle patate. La même chose, on ne peut plaire à Dieu que ce qui est neuf en Christ. Ce qui est ancien n'est jamais acceptable pour Dieu. Alors, verset 10, il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut forger une identité. Le problème, par exemple, d'un petit pays comme la Belgique, il en avait une, d'identité. À un moment donné, grâce à Albert Ier, la résistance aux Allemands, etc., il y a eu une période. Au début, il n'y en avait pas. On avait été avec les Hollandais, on avait été avec les Français. On a toujours été secoués dans tous les sens. Il y en a eu une certaine période, mais maintenant, on n'a plus. On l'a perdu. À part 2%, peut-être, des nationalistes, des gens de famille avec beaucoup de liens conservateurs, mais tout le reste n'a plus d'identité belge. Il n'y a même pas d'identité européenne. Il n'y a même pas d'identité chrétienne. Il y a l'identité du portefeuille et de la bagnole et de ce qu'il y a en dessous de la ceinture. Avec ça, on ne va pas loin. C'est une déliquescence complète, mais ça, ça a déjà existé pendant des siècles avant. On est vraiment secoué dans tous les sens. Il faut retrouver une identité, mais laquelle? Laquelle? Ben, elle est là. Verset 11. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, en nature humaine mortelle, n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, on voit que subjectivement, moralement, il y a des tourments en moi, il y a quelque chose qui reste de ce péché, c'est les convoitises. Si j'écoute mes convoitises, ça va devenir des péchés, ça va devenir des offenses à Dieu, ça va devenir comme des choses qui déplaisent à Dieu alors que j'ai cru en Jésus-Christ, je l'offense. Si vous voulez, il est sur la croix, je crache dessus. Comme ça, c'est clair. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, donc des choses que je fais consciemment, volontairement, en sachant que je ne peux pas les faire, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, donc de sainteté, d'obéissance. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il y a une chose très certaine. Si j'accepte que Dieu intervienne dans ma vie, la puissance de résurrection est à l'œuvre pour me garder auprès de Dieu. Si je ne veux pas que Dieu me garde, je connais des chrétiens, c'est terrible, même dans d'autres églises, parfois il faut que j'aille aider des personnes, c'est horrible. À quel point, dans quoi ils tombent? Et puis ils font souffrir tous les autres alentour d'eux. C'était des très bons chrétiens, entre guillemets, jusqu'au jour où ils ont montré que ils ne voulaient plus renoncer au péché, ils ne voulaient pas être sous la grâce, ils voulaient tout simplement retomber dans leur convoitise, ennemi de leurs âmes et ennemi de Dieu. Dans le bouddhisme et dans beaucoup de courants hindouistes, il y a 640 incarnations. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre par le yoga et d'autres techniques à faire le néant, c'est-à-dire à s'abstenir des passions, des désirs qui mettent le désordre sur la terre. Et au bout de 640 réincarnations, on arrive au karma, c'est-à-dire au néant. Il n'y a plus rien de mon être mal foutu. C'est le néant. Ça, c'est la technique de 640 réincarnations, c'est le but, c'est le néant. Madame Blavatsky, de la cour du tsar, elle a été voir par là, elle a fait une sauce formidable, elle a pris ça, puis elle est arrivée à la cour, elle a miné toute la cour du tsar, elle a mis la poisse là-dedans. C'est pas étonnant que après la cour soit été assassinée. Satan étant rentré là, et l'empereur a pris de très mauvaises décisions par la suite. Madame Blavatsky a pensé que, puisqu'il faisait le yoga, il faisait la méditation, il était en contact avec la nature, elle pensait qu'ils se remplissent de l'univers. Et Dieu, et l'univers c'est Dieu. Les puissances de Dieu sont dans l'univers. Les puissances de l'univers sont Dieu. Donc, plus je suis dans la méditation, dans le yoga et tout ça, je me remplis des puissances. Alors que l'hindouisme, c'est faire un néant vers le vide. Hein. Alors, pratiquement, elle est revenue avec tout ça, elle a créé l'anthroposophie, il y a quatre branches, dont celle de Steiner. On a fait des écoles, on a fait toutes sortes, et ça, c'est venu partout ici, c'est l'énergie positive, c'est plein de machins qu'on trouve dans tous les sens, même dans les réclames, dans les revues, tout ça, on voit des gens avec du yoga comme ça, qui font l'âne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est une image favorable, séductrice, qui vient de Madame Blavatsky et qui a ruiné la Russie. Après ça, vient le communisme, naturellement. Et ici, nous, on prend ça. Après ça, vient l'islam. Le message de l'Évangile, c'est que la plénitude en Jésus-Christ vaut mieux que le néant de notre péché. Nous n'avons pas à faire le néant, nous sommes déjà un néant. Nous avons échoué, nous sommes séparés de Dieu. Et Dieu n'est pas l'énergie dans le cosmos, Dieu est le créateur du cosmos et de toutes les énergies. Nous devons partir, puisque le néant du péché nous a touchés, qu'il nous sépare de Dieu, qu'il nous condamne aux souffrances, aux morts et à toutes les convoitises. Il faut non pas qu'on, par des méditations, on renonce au péché et à sa puissance, il faut que Christ, à la croix, ait pris la puissance du péché et qu'elle ait été crucifiée. Crucifiée, ça veut dire détruite. Si j'accepte que Jésus a détruit la racine qui est horrible, qui sabote la pleine réalisation de la création de Dieu, de ce monde, si j'accepte pour moi une nouvelle vie que je ne peux pas inventer, mais que Dieu veut me donner, Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma vie, dit Paul. C'est très important. Donc, je crois que l'Église de Jésus-Christ est uniquement composée de ceux qui ont été rachetés et la vie d'ensemble sur la croix. Comprenez bien que c'est ça l'Église. De ceux qui se sont convertis dans le Saint-Esprit, qui ont été régénérés et scellés par le Saint-Esprit. Alors, il y a bien sûr d'autres citations. Romains 12, versets 1-2. Quand vous avez un texte de la Bible, n'importe l'épître aux Romains, que vous dites, j'ai encore 30 ans à vivre, dites-vous bien, vous devez au moins la lire 3 fois par an. Ça fera 36 fois. En disant, Seigneur, peut-être qu'à la 36e fois, tout sera clair pour moi. Et quand je me présenterai devant toi, je serai dans la lumière de ta parole. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut dire. Je prends tel livre de la Bible, Seigneur, d'ici 30 ans, quand je serai mort, je l'aurai lu, je fais la part des choses, par exemple, 20 fois. Seigneur, si c'est la 18e fois que j'ai compris, je le lirai 18 fois, même 25 fois. C'est là que Dieu voit qu'on est sérieux et qu'on attend de lui une grâce qu'on n'a pas par nos neurones médiocres, abîmés par le péché. Romains 12, verset 1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, donc c'est Dieu qui comprend le pécheur, qui souffre de voir l'homme abîmé par le péché et qui le sauve, qui a aussi donné Jésus sur la croix. C'est un Dieu de miséricorde et sauveur. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc une raison saine. Une raison saine. Restituée, qui fonctionne bien, donne une envie, un désir, une consécration de sa personne à Dieu. Moi, je pense que la vraie raison saine, je ne la vois que dans ceux qui se donnent à Christ. Le reste, ça cafouille pas mal, ou même totalement. Donc, un chrétien qui a une raison saine, s'il y a 100 chrétiens, combien ont une raison saine? Ceux qui se donnent en offrande à Christ, c'est-à-dire qui font la volonté de leur Père. Ceux qui laissent faire la grâce de Christ en eux, et qui ne croient pas qu'ils sont quelque chose sans le Christ et sa grâce. Quand on fait le tour, il n'y a rien. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, à Ion, donc à cette période-ci, hein, qui est touchée encore par le péché, par les contestations, par la rébellion contre Dieu, bien qu'il y ait déjà Jésus mort et ressuscité, qu'il y ait le Saint-Esprit à l'œuvre à travers le monde, il y a quand même, pour le moment, une contestation, une rébellion latente ou déclarée contre la parole de l'Évangile, contre la croix de Christ et surtout le cadeau de la vie éternelle, de la sainteté. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire il faut avoir absolument une position radicalement différente. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand il dit « soyez transformés », ben vous, allez, faites un effort, vous serez transformés demain, après-demain. Vous êtes tellement intelligent, vous pouvez y arriver. C'est pas ça qu'il a dit. Hein. Le renouvellement se fait par Dieu lui-même, dans sa grâce. Alors, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Voilà, il le dit. Donc, de croire qu'on est capable d'avoir une intelligence chrétienne sans l'intervention puissante de la grâce de Dieu, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Offre la mesure de la foi. 1 cm, 30 cm, 2 km. Quelle est la mesure de ma foi? C'est pas que Dieu ne veut me donner qu'un centimètre ou 10 cm. Il veut me donner peut-être 300 km. Mais le problème, j'en reçois combien? Je veux en recevoir combien? Plus on a soif, plus on est correct avec le Seigneur, plus on en recevra. C'est clair. La multiplication des talents. L'homme qui avait 5 talents, qui les a mis en œuvre. Eh bien, Dieu lui en donne encore 5 de plus. Mais celui qui n'en avait qu'un, c'est un maître sévère et dur. Moi, je tiens ma distance avec Dieu. Hein. Je suis quand même enfant de Dieu. J'ai pris un talent, je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais le reste, je reste là. Hein. Je m'enferme. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il lui reprend son talent, il n'y a rien. Donc on voit bien qu'il faut avoir une mesure de la foi immense. Pourquoi? C'est selon ma foi que Dieu donnera une plus grande foi. C'est selon ma foi que Dieu donnera des talents encore plus. C'est selon le don de moi-même à Dieu qu'il me donnera encore plus. Donc tout est basé sur un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera un culte raisonnable, c'est-à-dire, raisonnez bien, c'est là qu'on gagne. On ne perd jamais. Parce que Dieu donnera toujours plus à celui qui l'aime et lui obéit. Donc, c'est raisonnable. C'est compréhensible, ce que j'essaye de vous montrer. Alors, à qui est adressée cette exhortation? Eh bien, regardez au verset 4. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps, l'image du corps humain, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Voilà l'image de l'Église. L'Église, c'est un corps. C'est un organisme vivant. C'est un organisme vivant. C'est un ensemble d'êtres humains intégrés dans Christ. Et si le Christ est invisible, le Christ de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, monté au ciel, le Christ visible d'aujourd'hui, c'est l'ensemble des croyants qui se consacrent à Christ. C'est son corps. C'est son corps sur terre pour le moment. Mais je dis bien selon les paroles qui sont ici, pas selon des auto-persuasions, des auto-suggestions. Je suis du corps de Christ. C'est pas ça ce qui est mis avec Paul. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Il y a une solidarité, il y a une co-responsabilité dans la vie de cet organe entre tous les membres de ce corps, entre tous les membres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a accordée, que celui qui a le don de prophétie, donc de parler de Dieu, l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère, c'est un service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Par exemple, Vincent et Michael font ça tous les dimanches. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vincent a fait tous les comptes, on a vu. Hier, on avait réunion du conseil, tous les comptes sont faits. On va aller voir le superviseur aux comptes mardi matin, qui va regarder, il va sonder, puis il va signer, il va dire que les comptes sont bien tenus, etc. Ou il fera des remarques en disant il y a une erreur là et là. Mais il n'est pas chrétien. Hein. On a choisi un non-chrétien exprès. Hein. Pour être sous le regard de quelque chose de tranché et net, hein, qu'on ne vienne jamais nous dire. Le jour que quelqu'un voudra donner 100 000 euros ou 300 000 euros pour une école ou pour la maison de prière ou quoi, on pourra dire, voilà, c'est un monsieur qui est juge au tribunal de commerce, qui supervise nos comptes. Il n'y a pas de coalition d'intérêts entre la gestion de nos comptes à l'Église et les chrétiens. C'est fait devant le Seigneur clairement et devant une autorité civile. Les chrétiens peuvent avoir l'approbation du monde et d'une autorité civile. C'est une garantie. En tout cas, c'est ce que nous avons dans nos comptes. C'est la même chose pour d'autres choses dans notre vie. Parfois, le regard de l'autorité civile sur nous est nécessaire. Il montre que nous avons de la rigueur et que nous voulons plaire à Dieu. Je roule comme un tari sur la route quand les gendarmes ne sont pas là. Et puis quand ils sont là, je fais la sainte touche. Est-ce que je suis intègre devant les autorités civiles? Non, je m'en fous. Mais si je tue quelqu'un, je m'en fous aussi. Parce que je mentirai quand je ferai ma déposition. Je fais ça à vitesse normale. Non, pas du tout. Quand on est intègre, on le fait sur la route, on se conduit convenablement. Pour le bien de tous et de soi-même, et pour le respect de Dieu et des autorités civiles. Et c'est valable dans plein d'autres domaines comme ça. Alors, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don prophétie l'exerce en profession de la foi, donc il y a des gens qui peuvent parler pour Dieu, que c'est un don que Dieu leur a donné, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Pardonner avec joie, hein. Pardonner parce qu'il faut. Pardonner parce que j'ai mal pardonner, mais j'aurais pas envie de lui pardonner, j'ai envie de... Mais ça, c'est pas du pardon, ça. Parce que le cœur est pourri. Il n'est pas en Christ. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et regardez verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez même les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas ce qui est élevé, laissez-vous attirer par ce qui est humble, donc le Christ, soyez, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez le mal, pas le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous avez vu ça? Tout ça, c'est l'équivalent de Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Les enseignements de repentance, de conversion que Jésus a prêché sur le mont de béatitude à tous ses disciples. Ça, en quelques versets, boum! Donc, la nouvelle intelligence, c'est celle-là. C'est la sainteté. Qu'est-ce que Moïse a écrit dans le livre de Lévitique, le chapitre 14 et 21? Il a dit, voilà, ce que Dieu m'a dit de vous dire. Soyez saints, comme je suis saint. Car l'Éternel est saint. Soyez saints. Eh bien, figurez-vous, c'est repris, évidemment, et c'est appliqué en Christ. Quand il était vivant, mais nous, aujourd'hui, si nous avons cette relation d'amour avec le Seigneur, laissons-nous tomber dans l'océan de la grâce et renonçons à cette foutue vie pourrie où il n'y a rien de vrai, rien de juste et qui nous mène en enfer. Alors, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ben, voilà, la sainteté. Hein. La nouvelle intelligence, c'est la soif de la sainteté. C'est la soif d'être comme Jésus. Et c'est pas seulement la soif. Tellement on a soif, Dieu donne le trésor pour y arriver, pour le faire. Il donne la grâce d'y arriver. Hein? C'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est en cela qu'on fait un seul corps. Le corps saint de Christ, c'est l'Église des croyants renouvelée dans la grâce, dans le Saint-Esprit. Alors, est-ce que nous aurions encore quelque chose à apprendre sur ce que dit la parole de Dieu pour nous? Oui, évidemment, Actes chapitre 2, verset 40. Moi, je trouve que l'évangile est passionnant. Ah, il n'est pas facile, hein? Mais c'est radical. Acte chapitre 2, acte, ça veut dire les actions, les engagements, hein, les œuvres. C'est Luc qui a écrit le livre des actes, hein. Donc c'est les actions, les engagements des chrétiens, des premières communautés, dans la région de Judée. Alors, Samarie et Galilée. Alors, acte 2, on va commencer au verset 37. Après avoir entendu ce discours, Pierre vient de parler du Seigneur Jésus. Ils eurent le cœur vivement touché, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 37. Donc il s'agit de juifs là. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, donc changez de vie, c'est appliquer et mettre en œuvre ce qu'on vient de lire dans Romains et qui est dans Matthieu 5 à 7. Et c'est ça, mais pour cela, si vous voulez, il faut être fondamentalement baptisé en Christ. Ah ben oui, ben alors il faut que j'aille dans l'eau. Ça c'est le truc de Nigo. Il faut être baptisé à la croix de Christ. Il faut que ma vieille nature, je dise, à jamais c'est fini Seigneur. Je renonce à ce que j'étais et je deviens avec toi un nouvel être. Hein? C'est ça être baptisé en Christ. Et c'est, il y a un moment solennel dans sa chambre. Dans le jardin, dans l'auto, en dormant, ou avec un chrétien ou des chrétiens, où on prend cet engagement, c'est un moment solennel, où on brûle les bateaux et on est sur un autre territoire. Alors, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, après que l'on prenne bien entendu le baptême d'eau pour démontrer visiblement devant les puissances sataniques et diaboliques, je ne suis plus avec vous. Devant des gens qui sont peut-être là, qui sont encore dans le péché, je ne suis plus des vôtres. Je suis avec Jésus. Réfléchissez bien. Ce que j'ai choisi, je ne montre pas mon baptême, réfléchissez. Le baptême est un témoignage. Le baptême est aussi une obéissance. Une obéissance, pourquoi? Parce qu'il faut prendre un jour une décision et que ça soit pour connu pour tout le monde. connu que j'ai ma vie, c'est Christ. Le reste, basta, c'est pour le diable, c'est la poubelle, ça va en enfer. Tout ce qui était avant va en enfer, mais moi j'y vais pas. Alors, regardez bien, à cause du pardon de vos péchés, où est-il le pardon des péchés? Au moment où je dis « Seigneur, je crois dans ce que tu as fait pour moi à la croix, je te demande pardon pour mon péché, je sais que tu as été puni à ma place de mon péché, je sais, Seigneur, mon Dieu, que mon péché, aujourd'hui, je te demande de le briser, de le détruire, je te demande la liberté des enfants de Dieu, la grâce du Saint-Esprit, l'amour de ta parole, l'amour de t'obéir, pour toujours et sans retour. » À ce moment-là, oui, à ce moment-là, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Pour toujours. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc il y a un appel. On ne s'appelle pas soi-même dans le corps de Christ. On ne s'appelle pas soi-même. Oh, j'ai envie d'être chrétien. Oh, j'ai envie. Oh, j'ai des émotions. Oh, j'ai toujours bien aimé la religion, j'ai toujours bien aimé les émotions. Oh, je ne me plais pas avec les autres, je suis mieux avec les chrétiens. Ce n'est pas des appels, ça. C'est des intérêts. C'est des opportunités. L'appel de Dieu, c'est le renoncement à la nature pécheresse. C'est l'appel à aimer Jésus-Christ plus que soi-même et à me donner entièrement à lui. Alors, cet appel-là, ben, il y a une bataille, hein. Et à un moment donné, on s'assied. Je préfère être gagnant, Seigneur, avec toi, que d'être perdant avec le diable. Alors, plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, ben c'est ce que je fais aujourd'hui, disant, sauvez-vous de cette génération perverse, ben oui, sans nommer quiconque, parce qu'il n'y a pas accusé quelqu'un, le monde est perdu. Ceux qui acceptèrent cette parole furent baptisés, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Au moment où ils sont baptisés dans l'eau, ben, dans les minutes qui ont suivi, ils étaient baptisés en Christ. Hein. Au moment où ils ont accepté Christ, j'ai prié avec la maman de Rachel dans la semaine lundi. J'ai posé des questions, comme je l'ai fait en Afrique. Hein. Et c'est la différence avec les raisonneurs européens. Où les Africains installés en Europe sont aussi devenus des raisonneurs et ils tournent alentour du pot et ne vont pas directement à Christ. Mais j'ai vu ça en Afrique. On enseigne l'évangile, on fait l'appel, la réponse est claire. J'ai remarqué ça souvent. J'ai vu avec cette femme, elle l'a répondu clairement. Elle l'a répondu clairement, c'était son jour, je suis sûr, et après je dis, vous êtes venu aveugle. Il fallait l'avenir. Quand je suis arrivé le lundi matin, le jeune homme la descendait par l'escalier. Il l'a mené à la toilette, il l'a mené à la salle de bain. Elle était toute perdue. Il l'a mené dans le fauteuil. Après, je peux parler avec elle. Sais-tu que le Seigneur peut faire quelque chose pour tes yeux? On va prier. Et s'il le veut, il fera quelque chose. Tu verras bien d'ici 15 jours. J'ai prié avec elle. Après, bien sûr, qu'elle ait confessé Jésus-Christ tout, hein. La première chose, c'est le salut. La deuxième chose, si le Seigneur le veut, il faut un encouragement pour la personne que le Satan attaque. Eh bien, je dis, voilà, je voudrais bien faire l'onction de Dieu avec toi et prier pour tes yeux. Quand je suis revenu jeudi, eh bien, jeudi, elle descendait l'escalier, est habillée dignement, avec ses lunettes et tout, dignement. Elle écoutait les instructions spirituelles que je donnais, et puis elle a posé des questions après. Et je l'ai vu descendre l'escalier tout seul et remonter l'escalier tout seul, aller à la toilette tout seul, ce qu'elle ne faisait pas lundi. Que Dieu soit à l'œuvre, c'est pour sa gloire. Pour sa gloire. Uniquement, tellement cette femme a répondu clairement à mes questions, aussi Dieu est clair. Quand on est clair avec Dieu, il est clair avec nous. Quand on chipote, eh bien, il nous laissera chipoter. Regardez dans le désert avec les Hébreux. 43 ans, les deux premières générations, ils meurent. Et vous savez combien de temps ils pouvaient traverser le désert? Prenez les premières pages de Deutéronome. 11 jours, ils pouvaient avoir traversé. 43 ans. attention, de chipoter avec le Seigneur. Parce que le désert est long et mortel. Le désert de l'incrédulité, de la désobéissance, du manque de foi. Alors, au chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là le nombre des disciples, des enseignés. » Donc, on a enseigné, hein. On n'a pas fait tout n'importe comment. « Augmenta d'environ 3000 âmes. » Et quand je dis, après l'instruction, où c'est monsieur, cher ami, Jean-Luc qui posait les questions, parce que quelqu'un lui avait téléphoné, posait les questions, donc il voulait répondre. Elle écoutait tout, il y avait l'expression de la Bible, et puis elle a posé ses questions. C'est une femme, je suis certain, tout est dans son âme. Hein. C'est pas parti pour la poubelle ou je ne sais où. C'est dans son âme. Quand j'ai vu monter l'escalier, je savais qu'elle l'avait mis ça dans un coffre-fort, elle ne tarderait pas. C'est comme cela que ça s'est produit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, regardez bien, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand on parle de miracles et de prodiges, ce n'est pas des trucs époustouflants où il y avait la radio-télévision, où il y avait une assemblée qui était en train de faire badaboum, badaboum, et on faisait passer le panier, on ramassait la dîme, et puis monsieur, après, le prédicateur partait en avion.
En jet privé.
En jet privé. Regardez bien ici. Ceux qui ont prêché, ils vont être persécutés. Ils vont être tabassés, ils vont être lapidés, ils vont être mis au lion. C'est normal qu'un serviteur de Dieu soit éprouvé. Autrement, ça sera vite un comédien du diable pour piétiner sur la tête des chrétiens. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, verset 44. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, trouvant grâce auprès du peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le mot Église, c'est ça. Alors, ça vient de où le mot Église? C'est d'un verbe grec, ek kaleo, appelé à sortir d'eux. Hein? Comme extraordinaire, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Exagéré, c'est quelque chose qui ne sort d'une bonne gestion. Hein? Alors, ek kaleo, c'est appelé hors d'eux. Par ici, les gars, sortez de ce monde à pourri. Jésus, oui, on vient avec toi, Jésus. Viens, suis-moi. Alors, ceux-là qui sont mis à part, c'est l'ecclésia, c'est la réunion de ceux qui ont été appelés et qui ont répondu, qui sont mis à part. Ecclésia, c'est la communauté des appelés qui ont répondu, des élus. Alors, vous voyez, l'Église, c'est un corps. Aujourd'hui, c'est le corps de Christ, évidemment. Éphésiens chapitre 1. Est-ce que l'Europe est décidée à mourir spirituellement complètement ou pas? C'est vrai qu'elle trahit tout le temps. Elle aime bien trahir et se rebeller. Mais ce qu'il y a, quand on voit comment, quand on explique la même parole de Dieu, devant des centaines de personnes ou des milliers de gens, là où j'étais au Bénin, et qu'on dit « Qui veut donner sa vie à Jésus ?» Qui veut répondre? Vous en avez plein qui se lèvent et qui veulent. Mais ceux-là qui se lèvent, dans ces communautés-là en Afrique, ils vont rouler pieds nus encore. Ils n'ont pas eu la promesse d'avoir une grosse BMW, une Audi, et de travailler je ne sais où pour avoir un gros compte en banque. Ils vont rouler pieds nus. Ils vont encore gratter la terre et travailler 12-14 heures tous les jours pendant 6 jours. Ils vont encore dormir à terre. Quand ils sont malades, ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Plus d'un repas, c'est un grand luxe. Quand il y a des gens un repas, et ceux-là donnent toute leur vie à Christ. Quel est donc notre problème ici? Ça pleurait. J'ai vu plus de gens répondre à l'appel de Dieu sur 12 jours, la première fois que j'étais là-bas au Bénin, que si je restais 1000 ans ici à prêcher. La même chose. Et comme ne disent pas que les gens là-bas sont bêtes, hein, qu'ici ils sont intelligents, c'est pas vrai. Éphésiens 1, verset 4.
Ils sont confiants.
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Donc, la volonté de Dieu et son plan, c'est la sainteté dans le monde. Il nous a... Donc, lorsqu'on répond à Jésus, c'est pour la sainteté. Ce n'est pas pour une vie un peu améliorée. À ma façon. Hein? Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, on était des enfants abandonnés. Oui, abandonnés par Adam et Ève dans les pattes du diable et du péché. Ça, c'est clair. Hop, adoptez-moi ça. Ne les laissez pas dans leur misère. Qui va les chercher pour les adopter? Jésus. Et quand Jésus est parti au ciel, les chrétiens doivent continuer l'adoption dans ce monde. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé notre bien-aimé. Donc, dans une église, nous avons une tâche d'aller continuer à provoquer des adoptions, et nous avons une tâche immense, c'est de célébrer la gloire de sa grâce, c'est de croire vraiment que Jésus a un plan de rédemption agissant. Et il faut le voir. Et pour le voir, il faut y participer. Si on n'y participe pas, on ne voit rien. On reste dans les ténèbres. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors, vous vous rappelez que Paul a parlé dans Romains 12 du renouvellement de l'intelligence, pour connaître tout ce qui est bon, agréable et parfait. Eh bien, vous avez ici, hein, il a répandu abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Qu'a fait tout à l'heure Michael quand il lit le psaume ? C'est éveiller notre désir d'intelligence, notre désir de sagesse. Ce que fait aussi Vincent quand il préside. Je veux dire, vous avez une belle pompe. Il y a de l'eau à la rivière, mais elle est 50 mètres plus bas, dans le bas du talus, ou un puits. Vous branchez la pompe, vous voulez arroser tout le jardin ou laver l'auto ou donner de l'eau à tout le village. Il faut amorcer la pompe. Hein. Il faut d'abord aller chercher 2-3 seaux d'eau, la taper dans la pompe, la mettre en route, alors elle pompe. Courez toujours de la faire tourner sans l'amorcer. Bien, qui a amorcé la pompe, les amis? Qui a mis la pompe en route et qui a mis dedans la grâce pour qu'elle... C'est le Christ qui a commencé à entraîner les gens vers la croix, vers le salut, vers le ciel. Et après, ben nous ne sommes que le tuyau entre la pompe et la rivière, hein, ou l'eau du puits. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Le mystère, c'est la réalité, mais qui se dévoile au fur et à mesure que ma foi grandit. Je comprends de mieux en mieux sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution, lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Réunir toutes les choses. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui l'avons avant espérer en Christ. Regardez les amis, de savoir que Dieu déjà nous aimait avant, nous a choisis, que Dieu nous donne une tâche sainte et belle pour lui, et qu'il nous donne le conseil de sa volonté. Il peut parler à notre cœur pour le faire comme il faut. Hein? Et nous servions à la louange de sa gloire, que tout cela élève le nom de Dieu sur la terre. Par ce qu'on est, par ce qu'on fait. Voilà le chrétien. Voilà l'Église. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc par l'évangile, par la mort, l'évangile, par la mort et la résurrection de Jésus, pour mon salut, vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Si je suis scellé, mes amis, qu'est-ce qui peut m'arracher à Christ? Moi, j'ai déjà été devant des cas de possession, des trucs pareils, des gens violents. Qu'est-ce qui peut m'arracher à Christ? C'est clair. Je parlais au Seigneur Jésus, je disais, Seigneur Jésus, celui-là, il veut ma peau. Je te demande d'être entre lui et moi, Seigneur. Agis, Seigneur. C'est à toi d'être le vainqueur sur les démons qui sont en lui. C'est à lui d'être vainqueur sur sa volonté meurtrière. Seigneur Jésus, j'invoque ton nom sur lui. Désarme-le. Ou je suis en présence d'une femme qui ne fait qu'une chose, toute gentille avec moi, qui ne veut qu'une chose, m'abadouer pour arriver à me faire chuter dans les trucs de la chair. Ça arrive, il y a des femmes très rusées, très malignes. Et pratiquement, comme il y en a des hommes aussi, pratiquement, Seigneur Jésus, je te demande d'avoir autorité sur les esprits impurs de cette femme, et qu'aucun de ces esprits impurs n'ait d'autorité sur moi. Seigneur Jésus, glorifie-toi. Mais cette personne, tu es mort sur la croix pour elle. Je ne vais pas tourner les talons. Je vais rester là, Seigneur, au nom de Jésus. Que les choses soient possibles, dans la foi que tu m'as donnée. Amen. Je ne me positionne pas, et c'est ça le chrétien, comme perdant d'avance. Je suis scellé. Je suis scellé. Scellé du Saint-Esprit qui a été promis, lequel, et on gage de notre héritage, c'est déjà quelque chose qui vient en avance. L'héritage, tout le reste, est encore fantastiquement plus grand, mais j'ai déjà ça, et c'est formidable, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Grâce à ce gage que j'ai en moi, je peux amener des autres au salut. Vous savez que c'est pas de l'autosuggestion, c'est pas de l'hyperconfiance en soi, c'est simplement une totale confiance dans ce que Dieu a fait. Par la parole de Dieu, il faut que notre identité soit claire. Une identité chrétienne confuse vient souvent d'un manque de lecture de la parole de Dieu, de méditation et de don de soi à Dieu. Dieu n'a pas voulu que les chrétiens soient confus. Ne nous en prenons qu'à nous-mêmes quand nous sommes confus. Demandons pardon, Seigneur, je voudrais changer. Alors, vous voyez, l'Église, c'est quelque chose qui peut être formidable, sainte, glorieuse, parée de toute une tunique blanche, irrépréhensible et irréprochable. Vous voyez bien comment Paul parle dans toutes ses épîtres, mais parce que c'est ça qu'il a dans son cœur, c'est ça qui est dans le cœur de Dieu pour nous. Paul n'est pas un idéaliste qui rêve de choses impossibles. Tout est possible pour Dieu, pour celui qui le laisse faire. Tite, chapitre 3. Et puis, il va falloir arrêter, je suppose qu'il est l'heure, dommage. Il faut que le moteur est chaud. Tite, chapitre 3. Oh ben, on va commencer au chapitre 2, c'est comme c'est si beau. Chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au manque de foi, et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc Tite, chapitre 2, verset 11 et suivant. Selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas envie de rater ça. Hein. Je crois que c'est le plus beau des spectacles du monde. Vous voyez maintenant, de plus en plus, quand il y a des guindailles, des anniversaires, des fiestas, des matchs de football, on fait des feux d'artifice. Pourquoi est-ce qu'on fait des feux d'artifice à tout bout de champ maintenant? D'abord parce qu'on a des sous, et qu'on aime bien les dépenser, et puis que c'est produit en Chine, c'est pas cher. Allez, paf, on va s'en acheter. Un anniversaire, n'importe quoi, et pif, paf, combien de fois on voit ça par an? Nous, à Gombry, même sur Virton, Aide, même dans Gombry, Chenois, on le voit. Alors, pratiquement, et c'est une gangrène, ça augmente tout le temps. Parce qu'on l'a vu une fois à la télévision, sur Berlin, sur Paris, au Nouvel An, Et tous ces sous-là, il n'y en a pas qui en ont besoin pour les aider. Parce qu'ils veulent recopier une gloire qui est perdue. Ils ont la nostalgie de la vraie gloire. Qu'à cause d'Adam et Ève, on a perdu. La gloire de Dieu nous apparaîtra à nous, qui aimons le Seigneur Jésus, et qui attendons son retour. La gloire comme un feu d'artifice inégalable. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le prince de la lumière, vous imaginez, c'est rien cette pétarde en l'air. Paf, c'est éteint, il refait tout noir. Mais avec Jésus-Christ, une fois qu'il sera là, paf, tout noir après. Fini le noir, fini les ténèbres. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Donc, nous voyons tout à l'heure, c'est un corps, c'est une ecclésia, une réunion de gens appelés qui sont acceptés de se mettre à part. Maintenant, on voit que c'est un peuple. Là, des images pour dire ce qu'est l'Église, qui lui appartiennent. Donc, on est la propriété du Christ. Dit ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, exousia. Le mot autorité, exousia, ça veut dire comme parlant au nom de Dieu, pas de toi-même. C'est quelque chose qui ne vient pas de toi, ça vient de Dieu, quand tu le dis, et que tu exhortes et tu reprends. Que personne ne te méprise. Quand Vincent et Michael exhortent, président, ou que Bénédicte et Véronique chantent, ou que Véronique va pour l'école du dimanche, au matin, elle travaille sur la table, à l'ordinateur, elles ont travaillé 2 heures avant le culte, déjà hier soir pour ça. Il y a du travail derrière un petit culte, même si on n'est qu'à 10, 15, 20 ou 30. Il y a beaucoup de travail. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours être prêt. Qu'il y ait 20 gosses ou qu'il y en ait 3, il faut être prêt. Qu'il y ait 10 adultes ou qu'il y en ait 300, c'est le même travail. Et pratiquement, il faut une exousia, c'est-à-dire une autorité venue d'autre part pour tous les dimanches remettre ça. En plus, il faut balayer, ranger, nettoyer, etc., tout le reste. Cette autorité vient de où? Du fait qu'on se donne à Christ. On peut rentrer dans le ministère. Le ministère d'une église est très important et il doit être partagé par tout le monde. Mais avant de partager un ministère, il faut partager l'obéissance. On ne peut pas partager un service, un ministère, si on ne partage pas l'obéissance à Christ et à ce qu'il demande. Autrement, l'orgueil rentre dans l'église par les œuvres. Tite, chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc il faut respecter les lois, les autorités civiles, de ne méditer de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Ben, les convoitises et voluptés, ça y est, hein. C'est pas d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin eu de la TV et d'Internet, hein. Pas besoin de pousser personne dans le dos pour ça. Une fois qu'on est pris par ces passions-là, c'est incroyable. Vivant dans la méchanceté, dans l'envie, parce que après l'impureté, généralement, il y a un stade où la personne, à cause de l'impureté, tombe dans le mensonge et la violence, la haine, la dispute, les querelles. C'est la progression spirituelle négative. Elle est comme ça. Vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haï, et nous haïssant les uns les autres. L'impureté amène toujours le déchirement, le manque d'amour. Des relations agressives et animales. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, d'obéissance que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, le bain de la régénération à la croix, transformation. À l'école du dimanche, un jour, un petit enfant, on leur disait de faire un dessin parce que ça avait été une leçon pour les petits-enfants de l'Église sur la miséricorde de Dieu. Alors le gamin avait dessiné une ligne comme ça, puis paf, un puits, et puis il y avait quelqu'un au fond du puits. Puis il y avait un bonhomme au-dessus qui regardait, qui prend une corde, et qui descend la corde, et qui lui dit « attache-toi, je te retire ». Il dessine ça, lui. Alors, voilà, pour expliquer la miséricorde, il a dit, il est dans la misère, il ne sait pas remonter, et là, le monsieur au-dessus, c'est Jésus, il lui lance la corde et lui dit, attache-la à l'entour de toi, et puis tire, miséricorde. Il sort de la misère par la corde, mais corde, hein, ça vient du grec et du latin, cardias, c'est du cœur. Le cœur de Dieu est sensible à la misère du pécheur. La miséricorde, c'est Dieu est capable de souffrir, de pleurer, d'aimer pour quelqu'un qui est dans la misère de son péché. Regardez Jésus. Et il est capable de nous donner le meilleur, la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous, le Saint-Esprit, avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés, donc pardonnés, par sa grâce, nous devions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. L'espérance, c'est quelque chose de facultatif, c'est pas sûr, 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 c'est pas ça ici. Le mot, c'est la certitude. Le mot français est faible, espérance maintenant. C'est certitude. Cette parole est certaine, d'ailleurs, vous voyez. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous voyez l'Église ? L'Église, c'était un peuple, au chapitre 2, verset 14, qui appartient à Christ, qui s'est donné pour nous. Un peuple qui est purifié par lui, pas par nous-mêmes, on n'y arrive pas. On est trop tricheurs, trop misérables. On revient sur nos bonnes dispositions. On s'aime de trop. Mal, d'ailleurs. Mal, parce que pour finir, c'est pour aller en enfer. Et on manque de zèle, c'est-à-dire, c'est du feu, l'ardeur pour les bonnes œuvres. Donc, nous sommes invités à avoir du feu en nous, le feu du Saint-Esprit, pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous sommes loin d'avoir fini sur l'Église, les amis. Mais en toujours est-il, si on parlait de l'Église de cette façon-là partout, même qu'on aurait rasé tous les bâtiments qui s'appellent l'Église, cathédrale, basilique et tout ça, si on parlait comme ça, partout, dans l'Évangile, l'Église ressortirait des décombres. Pas les bâtiments, les âmes sauvées. Parce que les bâtiments morts dans lesquels il y a des personnes qui n'ont rien compris à la parole de Dieu, eh bien, il y en a plein. Il y en a plein. Des bâtiments dans lesquels on n'est pas né de nouveau. Je ne dis pas que tout le monde qui est dans un bâtiment appelé Église est mort. Il y en a parfois qui, de manière sincère, cherchent Dieu, prennent toutes les petites miettes qu'ils entendent et vont vers Dieu, sont touchés par la grâce de Dieu et ont un amour sincère de Dieu. Ça,